Chapitre 11. Le soleil commençait sa langoureuse descente derrière la forêt de l'Aigle. Il paraissait plus lourd que d'habitude, aux contours moins définis, comme brûlé par ses propres rayons. Une touffeur de bayou affectait les organismes des flics qui avaient passé l'après-midi à sillonner la petite commune de Saint-Léger, à pied ou en voiture, pour récolter des témoignages ou apporter du matériel à proximité de la maison. Cette agitation inhabituelle était vite remontée aux oreilles des journalistes. Des correspondants locaux cherchaient du grain à moudre pour leurs articles, suivant les policiers comme des vautours affamés. On parlait déjà d'une fille aveugle qui aurait été enfermée dans une carrière par un psychopathe assoiffé de sang. Charcot attendait dans le jardin que la police scientifique lui donne enfin la permission d'entrer dans l'habitation. Il avait posé les deux tableaux contre un mur, face cachée, et en avait profité pour donner un coup de fil à Lucie, annonçant qu'il ne rentrerait pas tout de suite. Sa compagne avait immédiatement répondu « Génial, c'est que c'est sérieux, tu me raconteras tout !»«
Génial, oui !» soupira Charcot en s'épongeant le front. Nicolas Bélanger revenait du fond du jardin, téléphone à la main, slalomant entre les tuiles cassées. Il désigna les tableaux.
« Tu veux refaire la déco de ton appart ? On va en avoir besoin très vite pour analyse. »«
Ne t'inquiète pas, je les déposerai demain matin à la scientifique. Je crois que les labos sont quand même ouverts le 15 août. »«
Oui, mais ça va tourner au ralenti comme partout. » Charcot avait grignoté un sandwich acheté à la boulangerie du coin et vidé une grande bouteille d'eau. Il se sentait poisseux, sale dans ses vêtements trempés et, pour passer le temps, avait astiqué ses mocassins jusqu'à épuiser tous ses mouchoirs en papier. Il brillait, désormais. À presque 20 heures, il faisait encore 29 degrés Celsius. Partout, des techniciens en tenue de lapin blanc allaient et venaient, le front humide, dégoulinant, tandis que des officiers de police judiciaire du groupe Bélanger en avaient fini avec leur premier jour d'enquête de proximité et étaient rentrés chez eux, rincés comme des serpillères.
« Alors, les nouvelles ?» demanda Franck.
Nicolas Bélanger fouilla ses poches, roula en boule une boîte de patch anti-tabac vide et s'alluma une cigarette. Sa veste beige était froissée et sa chemise à col sans bouton sortait de son pantalon. Il ne portait jamais de cravate, contrairement à Charcot, mais était souvent vêtu avec élégance, dans la tendance, ce qui n'empêchait pas qu'on puisse le voir également en polo et jean, même si c'était plutôt rare.
Il y en a des bonnes et des mauvaises.
À l'hôpital, notre victime, à moitié aveugle, s'est complètement figée, renfermée sur elle-même. Une espèce de catatonie, d'après le psychiatre. Autrement dit, elle n'est pas prête de raconter ce qui s'est passé.
La poisse.
Clope au bec, le chef de groupe prit son petit carnet et en tourna les pages.
Fallait pas s'attendre à ce qu'elle nous déballe toute l'affaire en même temps.
Bon, écoute ça. D'après les médecins qui l'ont auscultée, elle possède des tatouages plutôt grossiers réalisés à l'arrière du crâne, en creux noir. C'est noté B-02.03-07.08-09.11-04.19.
Aucune idée de ce que ça peut signifier pour le moment, mais je doute qu'elle ait demandé à ce qu'on les lui fasse. Merde, je croyais pourtant.
C'est ça, fous-toi de moi. Les médecins non plus ne voient pas le sens de ces inscriptions.
Ça n'a sûrement rien de médical. Sans le B, on aurait presque pu croire au tirage du loto.
En tout cas, il pense que pour commencer, elle a été rasée de la tête aux pieds. Il voit ça à la longueur des poils, partout identique, et d'autres trucs. Crâne, bras, jambes, pubis, tout y est passé. Charcot avait du mal à se concentrer tant il suffoquait. Il rêvait juste du moment où il prendrait une bonne douche froide, puis s'allongerait avec ses fils à regarder tourner sa petite locomotive poupette dans sa chambre. Les trains miniatures, échelle HO et les enfants l'apaisaient tellement. Essayant de retrouver son aplomb, il réclama le carnet de Nicolas Bélanger et relut les indications concernant le tatouage. Cette suite de chiffres n'était qu'une bouillie indigeste. Ça pourrait correspondre aux coordonnées d'une galaxie, comme à des chapitres de la Bible. À l'évidence, son cerveau était en surchauffe, lui aussi.
« On sait qui elle est ?»
demanda-t-il.
« Non,
et personne ne l'a jamais vue dans le coin.
Quant à Olivier Macareux, il n'existe pas. Identité bidon.
C'était presque certain. On a affaire à un prudent. Qui irait stocker de la nourriture en conserve dans une carrière pour un an? Le type aime contrôler, prévoir, ne pas laisser la place à l'imprévu. Il a agi au nez et à la barbe de tous. Quelqu'un a peut-être remarqué un détail dans ce village. Mais il va falloir aller se le chercher.
En plus, le temps a passé, ça joue contre nous. La famille du propriétaire est venue habiter cette maison qui a été polluée, nettoyée, renettoyée. On n'aura rien d'intéressant en paluche ou en ADN, j'en suis quasiment sûr. Un petit espoir avec la carrière souterraine, néanmoins. On trouvera peut-être des traces sur des boîtes de conserve, sur la baignoire. Mais je ne sais pas, j'ai l'impression que ce type est un fantôme. J'ai demandé au proprio de venir au 36 pour un portrait robot, mais il m'a déjà averti qu'il ne se souvenait pas de grand-chose. Comme il l'a expliqué, Macareux portait toujours ses lunettes et sa casquette dès qu'il mettait le nez dehors. Quant à sa voiture, elle était des plus communes. Évidemment, personne n'est capable d'en citer la plaque. Charcot fixa le bunker.
Du neuf là-dedans?
Un truc intéressant avec la caméra installée sous terre. On a trouvé un amplificateur Wi-Fi dans la pièce bordélique du bunker. Il devait servir à relier les images de la caméra à l'ordinateur de notre Macareux. Or, le propriétaire a coupé la ligne téléphonique à la mort de son père. Ça veut dire que Macareux piratait une ligne voisine. Regarde. Bélanger montra les réseaux Wi-Fi captés par son téléphone portable. Il y en avait deux. Il désigna deux maisons à une vingtaine de mètres, l'une à droite, l'autre à gauche. Pirater le Wi-Fi est relativement facile si l'accès est mal protégé. Les deux signaux viennent sûrement de ses foyers.
On va donc pouvoir retrouver ses connexions, les sites qu'il a visités.
Ou plutôt, ce qu'il a émis depuis son ordinateur avec cette caméra, et éventuellement, qui s'y est connecté. À condition que les propriétaires nous donnent l'autorisation de faire une requête auprès de leur fournisseur d'accès. La vie privée des internautes est très protégée. Une vraie plaie. Il désigna le bunker. Sinon, là-dessous, quelques traces de sang révélées par le Blue Star et des cheveux bruns sur la couche. Pas de liquide séminal, apparemment. On prélève, on photographie, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre. La surface est trop vaste et il n'est pas sûr que les équipes reviennent après-demain. On verra. Je préfère qu'elles se concentrent sur ce qu'on a. De toute façon, les labos croulent sous les demandes et on n'a plus de fric. Le juge et le divisionnaire vont encore me chier dans les bottes avec ces histoires de budget, si tu vois ce que je veux dire. Charcot sentait que son chef était au bord de la crise. Ce dernier écrasa sa cigarette dans la terre et la conserva dans sa main. Puis il consulta sa montre avec nervosité.
« Putain, déjà, faut que je retourne au 36. Je sais où je vais passer mon 15 août, moi. »«
Tu devrais lâcher du lest, surtout en ce moment. Je te sens à plat. »
« Ça va. »
Ça pourrait être ton slogan, ça va. Ouais, ça va, jusqu'à ce que tu te retrouves avec la gueule qui racle le bitume. T'es encore jeune. Ne grille pas toutes tes capsules de stress tout de suite. Le stock est limité, tu sais. » Bélanger passa une main dans ses cheveux noirs en pétard. Charcot s'était toujours dit qu'il avait une sacrée belle gueule pour un flic, et que quelque part, c'était un beau gâchis.
« Ouais, et tu crois que c'est le moment de lâcher du lest ? Je verrai plus tard pour mes congés. Il n'y a pas urgence. »
Si, il y a urgence. Quand le câble pète, l'encre coule au fond, mon gars. Bélanger ne s'apesantit pas sur la remarque. Il appréciait Charcot, sauf pour ses leçons de morale à deux balles. Et toi, tu rentres chez toi, là?
Charcot donna un coup de tête en direction de la maison. Je reste encore un peu.
Tu vas aller te taper une petite branlette intellectuelle là-haut, c'est ça? T'allonger sur le lit de ce taré et attendre qu'il te raconte son histoire.
Tu sais bien que j'aime quand ils me murmurent leurs secrets à l'oreille. Le proprio a dit que les lumières restaient souvent allumées la nuit à l'étage. Je ne crois pas que notre tortionnaire matait un épisode de Derrick.
Bélanger marqua un silence. Ok, mais fais gaffe avec les tableaux bizarroïdes. Tu les déposes toi-même demain, t'as dit. Charcot acquiesça.
« Je peux venir bosser une partie de la journée. Mais j'ai promis à Lucie de passer du temps avec elle. Et elle risque de...
T'inquiète, je vais gérer. Et Robillard va m'assister pour mettre en route les procédures. On va être bloqué à cause des congés des uns et des autres, de toute façon.
Le temps que le rouleau compresseur se mette en marche.
Nicolas Bélanger soupira un bon coup.
C'est très macabre, tout ça.
Écoute, Nicolas.
Charcot hésita.
Si cette affaire est trop compliquée, trop tordue, je vais peut-être lever le pied.
Tu dis toujours ça. La veille, tu quittes le job, et le lendemain, on te retrouve au fin fond de la Russie, flingue à la main.
C'est sérieux cette fois, parce que je sais que Lucie va vouloir y fourrer le nez d'une façon ou d'une autre, et qu'elle va me harceler dès que je rentrerai. Je voudrais qu'elle profite encore des congés qui lui restent. Il y a les jumeaux, l'appart qu'on vend, et la maison qu'on achète, ça fait beaucoup.
Il y a tes drôles de tremblements aussi. J'ai vu tout à l'heure, avant d'intervenir.
Juste la fatigue.
On est tous fatigués, hein?
Je te mets au défi d'élever deux nourrissons d'un coup à 50 berges. T'as vu mes mains? Elles sont deux fois plus grandes que leur biberon.
Je vais encore attendre un peu pour ça, si tu veux bien. Pas vraiment pressé ni d'avoir 50 berges, ni d'avoir des bébés.
Tu devrais l'être. T'as combien? 35 ans? Ça passe vite, tu sais.
T'as raison. J'ai déjà l'impression d'être mort, parfois.
Ils se saluèrent amicalement. Charcot attendit encore une heure que les tics en finissent, allant et venant les mains dans les poches. Il réfléchissait. Dans un sens, cette affaire l'excitait. Mais d'un autre côté, il y avait ses enfants, sa compagne. Il regarda la photo de Lucie, biberon dans les mains et souriante. Sa petite Lara Croft. Elle était le résumé de son bonheur. Avant, il aurait foncé tête baissée dans l'enquête, aurait passé, comme Nicolas, sa nuit et son 15 août au quai des Orfèvres, jusqu'à finir sur les rotules. Parce que, avant, son chez-lui, c'était son bureau.
Mais maintenant...